Il est 8h sur Europe 1.
Les autres années, quand on rentrait en cours, bah, la rentrée en septembre, c'était horrible. J'avais pas du tout envie d'y aller. Alors que là, bah, revoir tout le monde, retourner en cours, reprendre le rythme, moi, je suis trop contente.
L'impatience des élèves après une année scolaire en partie confinée lors des retrouvailles avec les copains a sonné.
Le gouvernement allemand déplore les dérapages inacceptables lors d'une manifestation anti-masque. L'extrême droite est à la manœuvre. La correspondance d'Hélène Cole dans ce journal.
Encore un cas de cheval mutilé, cette fois dans l'Allier. Des actes barbares qui doivent cesser, nous dira le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie.
Et puis une chute, hein, et une bonne frayeur pour Thibaut Pinot sur le Tour de France. Mais il s'en tire bien pour cette fois.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'excitation monte à l'avant-veille de la rentrée scolaire. 12,5 millions d'élèves vont retrouver leurs copains.
De la maternelle au futur bachelier, ça sent les retrouvailles après le confinement, un bref retour dans les classes et les grandes vacances. Quel est l'état d'esprit en particulier des ados? Ève Roger a rencontré trois lycéennes de Sèvres, c'est en région parisienne.
Ça fait presque 6 mois que Mathilde n'a pas mis les pieds à l'école et c'est la première fois qu'à la veille de la rentrée, elle trépigne d'impatience.
Les autres années, quand on rentrait en cours, bah, la rentrée en septembre, c'était horrible. J'avais pas du tout envie d'y aller. Alors que là, bah, revoir tout le monde, retourner en cours, reprendre le rythme, moi, je suis trop contente.
Alors c'est vrai, il va falloir qu'elle porte un masque toute la journée, comme sa copine Sixtine. Et cette perspective n'enchante pas vraiment les deux amies.
Bah, déjà, sous le masque, il fait chaud.
Pour se parler, ça va être plus compliqué. Même pour communiquer avec les profs, déjà que c'est pas facile. Alors là, avec des masques. Donc moi, je trouve ça vraiment embêtant.
Et puis, autre nouveauté de la rentrée, le risque de contamination. Mais elles ne sont pas plus inquiètes que ça, explique Caroline.
Je suis beaucoup sortie après le déconfinement. Il y avait du monde, etc. Et je ne l'ai pas attrapé. Donc le seul truc qui pourrait m'inquiéter, c'est si je l'attrape et que ma mère l'attrape aussi parce qu'elle a des problèmes de santé. Mais sinon, ça va.
Enfin, je pense que je l'ai attrapé, mais je n'ai pas eu les symptômes et je n'étais pas malade. Non, je ne suis pas si inquiète que ça.
Alors d'ici mardi, elles vont quitter doucement le rythme des vacances pour retrouver celui de l'école, se coucher à 23h au lieu de 2h du matin. Et là encore, pour la première fois, elles s'en réjouissent.
Et on le rappelle, un rentrée particulière puisque mardi, dès le collège, tout le monde devra rester masqué toute la journée et même pendant les périodes de récré.
Jean-Michel Blanquer le dit ce matin à la une du JDD, nous sommes préparés à tout.
Masque, dépistage, cantine, le ministre de l'Éducation se veut rassurant à l'égard des parents mais aussi des enseignants. D'où ce Grenelle que nous détaille la journaliste Marie Quenet qui a réalisé l'entretien avec le ministre. Grenelle qui va être donné la semaine prochaine.
L'objectif, c'est de revaloriser le métier et d'améliorer le bien-être au travail. C'est, dit-il, le chantier de cette deuxième partie de quinquennat. Donc, il y aura des groupes de travail qui vont plancher sur trois grands objectifs. D'abord, la reconnaissance avec des discussions sur la hausse des rémunérations pour 2021. Le deuxième objectif, ça sera la coopération. En fait, c'est qu'il faut promouvoir l'esprit d'équipe. Le troisième, l'ouverture, qui devrait permettre, à en croire le ministre, de mettre en place une politique ambitieuse et protectrice des enfants avec des thèmes comme la gestion des données personnelles, la question de l'addiction aux écrans. Plus que jamais, on a besoin de l'humain dans la transmission des savoirs.
Et propos recueillis par Caroline Baudry pour Europe 1.
Danielle Obono pense porter plainte après une caricature d'elle en esclave dans Valeurs Actuelles.
Oui, depuis hier, la polémique de ne désenfle pas la caricature de la députée de la France Insoumise, collier de fer au cou, a choqué dans la classe politique jusqu'au président de la République. Retour sur les faits avec Jean-Jacques Héry.
Face au tollé suscité par la publication de l'article, Valeurs Actuelles a fini par s'excuser auprès de la députée pour ce texte accompagné d'une illustration la représentant en esclave enchaînée. Mais selon le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, il est injustifié de parler de racisme. Il évoque avant tout une maladresse.
L'accusation de racisme, si vous voulez, elle sort de nulle part. C'est exactement l'inverse de ce qu'on voulait. Ça, par contre, je ne l'ai pas anticipé. C'est probablement une erreur de jugement. L'intention n'était pas de blesser Danielle Obono, mais notre volonté, c'était de montrer justement l'atrocité, les horreurs de l'esclavage commis par des Africains il y a plusieurs siècles contre d'autres Africains.
Des explications qui n'ont convaincu ni l'ensemble de la classe politique ni la principale intéressée. Danielle Obono qui explique par ailleurs avoir apprécié le soutien unanime reçu hier.
C'est peut-être une prise de conscience que cette stratégie de l'extrême droite de cibler, de viser, de harceler, tout ça a été trop loin. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais je pense que qu'ils soient obligés aujourd'hui de devoir répondre de leurs actes est un signal fort parce que ça veut dire peut-être que désormais ce ne sera plus acceptable et que ces gens-là n'auront plus pignon sur rue, qu'on ne leur ouvrira plus les plateaux pour déverser leur haine.
Et la députée dit réfléchir également à l'éventualité de poursuites judiciaires.
Comment faire pour éviter une vague de faillite à l'automne? Voilà la question. À Bercy, on planche sur le plan de relance présenté jeudi.
Le gouvernement se dit prêt à faire plus que tout pour éviter ces faillites et trouver des solutions. Voilà ce qu'assure le ministre de l'Économie. Mais quelles sont justement ces solutions, Emmanuel Duteil?
Il y a deux outils sur lesquels le gouvernement mise. Premier outil, permettre aux entreprises d'avoir moins de personnel sans pour autant licencier. Ça s'appelle l'activité partielle de longue durée. Pendant 2 ans, les entreprises peuvent baisser le temps de travail et donc le salaire du collaborateur. C'est l'État qui prend une partie de la différence à sa charge. On compte beaucoup sur ce dispositif, concède une autre ministre de premier plan. Autre dispositif, les prêts aux entreprises. Ça a été très efficace pour permettre aux sociétés de ne pas mettre la clé sous la porte. Mais voilà, ce ne sera pas suffisant. On vit la pire crise économique de notre histoire. Et dans de nombreux secteurs, l'activité s'est effondrée. On peut citer par exemple les petits commerces indépendants de l'habillement. Plusieurs grosses entreprises connaissent aussi des difficultés. Bruno Le Maire a cité hier le fabricant de verre Arc International. Il s'attend à devoir aider encore la société. On va faire le maximum pour sauver tout le monde, mais je ne dis pas que l'on aura des résultats qui permettront d'éviter toutes les faillites, prévient-il.
Et pour aller plus loin sur le sujet, Pierre, vous recevez juste après ce journal Patrick Martin, président délégué du MEDEF.
Et puis dans un instant, nous reviendrons sur ces manifestations contre le port du masque un peu partout en Europe, et notamment. Et c'est un cap qui a été franchi, 25 millions de cas de Covid dans le monde.
Et recrudescence notamment en Inde avec près de 79 000 cas sur ces dernières 24 heures, c'est un record. En France, on a connu aussi une augmentation, 7400 nouveaux cas avant-hier, hier 5400, ce qui n'a pas empêché une mobilisation un peu partout en Europe d'anti-masques, un flop en France avec à peine 2 à 300 personnes verbalisées pour non-respect des gestes barrières.
Flop en France, en revanche à Berlin, il y avait du monde.
38 000 personnes selon les chiffres avancés par les autorités pour cette manifestation appelée Fête de la liberté et de la paix, manifestation organisée par l'extrême droite où l'on a vu que certains dans le cortège étaient prêts à en découdre avec les forces de l'ordre. On fait le point avec Hélène Kohl, correspondante d'Europe 1 à Berlin.
Certains manifestants ont passé une partie de la nuit au pied du Reichstag. Ils veulent faire le siège du Parlement allemand jusqu'à ce que le régime tombe. Ils sont quelques centaines venus avec des drapeaux du Reich, noir, blanc et rouge. Ils font partie de la mouvance radicale des Reichsbürger qui ne reconnaissent pas le régime démocratique de la République fédérale. Pour eux, Angela Merkel est une marionnette dans les mains de puissances étrangères maléfiques. Ils sont chauffés à blanc par des orateurs comme ce néo-nazi notoire, déjà condamnés, ils les appellent à ne pas avoir peur de verser le sang allemand sacré et de donner leur vie pour cette cause. C'était à 19h30 hier. Quelques minutes plus tard, tout s'accélère. La foule s'élance vers le bâtiment. Elle renverse les barrières, monte le grand escalier, puis est stoppée juste avant d'investir le bâtiment. Les manifestants jubilent. Ils crient « Résistance, résistance ». En marche, certains font le salut nazi. La scène est très rapide, mais elle rappelle des images des années 30. Elle fait la une partout ce matin ici. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Et réaction du ministre de l'Intérieur allemand également ce matin. Il dénonce des dérapages inacceptables.
L'affaire des chevaux mutilés maintenant, les naïcs, avec encore un cas à déplorer.
Oui, une double poney retrouvée vivante, mais blessée hier dans un pré de l'Allier. Depuis le début de l'été, on dénombre plus de 30 cas. Ce qui a fait réagir hier Julien de Normandie. Le ministre de l'Agriculture était l'invité de Wendy Bouchard. Il a promis de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur cette sordide affaire.
Mon message, il est double. C'est d'abord que l'État, le gouvernement, les services de police, de gendarmerie, sommes aux côtés de ces propriétaires, de ces éleveurs. Et le deuxième message, c'est de dire que justice sera faite et que tous les moyens d'enquête sont déployés pour mettre fin à ces actes barbares. Et encore une fois, je peux vous l'assurer, ces services à qui je rends hommage sont pleinement mobilisés parce que cette volonté d'aboutir dans les enquêtes, elle est absolument totale. C'est le ministre de l'Agriculture qui le vous dit, mais c'est aussi le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux avec qui je suis en lien constant sur cette affaire.
Le dernier Albert Dupontel, bientôt sur vos écrans de cinéma. Le film Adieu les cons a été projeté hier.
Avant-première au festival d'Angoulême et la vie de Mathieu Charrier qui a pu le découvrir en exclusivité pour Europe 1.
Une tragédie burlesque, voilà comment Albert Dupontel présente son film. Adieu les cons est même une satire contre notre société qui broie les hommes, raconté à travers 3 personnages, Suze, incarnée par Virginie Efira, coiffeuse, qui a tellement utilisé de produits toxiques qu'elle est condamnée par une maladie incurable. Sa dernière volonté, retrouver ce fils qu'elle avait abandonné à la naissance il y a plus de 30 ans, mais l'administration refuse de lui révéler son identité. Elle va donc s'appuyer sur un as en informatique, c'est JB, Albert Dupontel, quinquagénaire à qui l'on vient de refuser une promotion, et qui rencontre Suze à l'occasion d'une tentative de suicide ratée. Ajoutez au milieu d'eux un aveugle, Monsieur Blin, et vous avez le trio qui se lance dans une quête kafkaïenne. Adieu les cons est sans doute le film le plus nostalgique d'Albert Dupontel, car derrière quelques ressorts comiques, l'acteur-réalisateur dénonce les lourdeurs de l'administration, du tout numérique, les violences policières aussi, tous ces cons à qui il veut dire adieu. L'équipe du film enchaîne les avant-premières depuis des semaines et va continuer jusqu'à la sortie d'Adieu les cons prévue fin octobre. Au Festival du film francophone d'Angoulême, Mathieu Charrier, Europe 1.
Et puis le Tour de France, hein, il s'est fait une sacrée frayeur, Thibaut Pinot, sur la grande boucle. Le favori français a chuté.
Oui, il faut dire que la première étape n'a pas été de tout repos, beaucoup de pluie et par conséquent des chutes, dont celle du coureur Groupama, le favori français. C'était près de l'arrivée à Nice. Il nous raconte cette mauvaise expérience.
C'était difficile, ça a été une des pires journées de ma carrière, je pense. Je pense que tout le monde était pareil, tout le monde a eu peur. On roulait vraiment sur de la route, sur du verglas, donc c'est vrai que devant la télé, je pense qu'on peut pas, comprendre, mais sur le vélo, c'était à vivre, c'était vraiment stressant, et pour moi, c'était une des journées les plus stressantes de ma carrière.
Voilà, Thibaut Pinot avec Axel May. Axel, notre envoyé spécial sur le Tour, hein, qu'on retrouve à 8h30 pour son journal du Tour.